place publique. L'horlogerie reprend des couleurs, une reprise perceptible du côté des exposants réunis cette semaine à Genève, où se tient le Salon international de la haute horlogerie, un événement toujours plus prisé, auquel prennent part quelques 35 marques de montres, et ça représente des milliers d'emplois dans la région. L'hiver ne fait pas dans la dentelle, vous l'avez remarqué aujourd'hui, ces dernières semaines également, y compris dans la région. Heureusement, la neige a fait le bonheur des stations de ski de l'arc jurassien, des stations réunies depuis peu au sein d'une association pour mieux défendre leurs intérêts. Le président de cette association nous rejoint après 18h30. Enfin, nous reviendrons sur le nouveau visage de la presse neuchâteloise, Fini l'Express et l'Impartial. Une page se tourne dès mardi, place à Arc Info, aussi en version papier.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. Le cœur de l'horlogerie bat cette semaine du côté de Genève. Le Salon international de la haute horlogerie réunit depuis lundi 35 marques présentes dans le haut de gamme sur fond de reprise économique. Le SIHH devient un rendez-vous toujours plus prisé, alors que son concurrent Baselworld semble marquer le pas. Avec nous pour en parler, le journaliste spécialisé dans l'horlogerie, Michel Janot. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez le bureau d'information de la presse horlogère, une agence, comme son nom l'indique, qui est dédiée à l'horlogerie, une agence indépendante. Alors, la foire horlogère de Baselworld qui perd des exposants, ça on l'entend depuis un certain temps, il y a des annonces. Le SIHH qui prend son essor, qui recueille un peu les échoués. Est-ce qu'on assiste à un basculement du côté du lac Léman ?
Bâle est en perte de vitesse, ça paraît évident. Cette manifestation va perdre à peu près la moitié de ses exposants cette année. Mais le SIHH de Genève est exposé à la même problématique, exactement. La raison pour laquelle ils ont existé, ou ils existent, c'était des foires commerciales. Et aujourd'hui, cet aspect n'existe à peu près plus, donc ils doivent se réinventer.
On n'achète plus les montres de la même manière, ou on les commande plus de la même manière ?
C'est essentiellement des professionnels qui venaient à ces salons, donc des propriétaires de magasins. Et aujourd'hui, ces propriétaires, les marques les contactent tous les jours par leurs filiales, par les représentants de les pays. On leur montre à peu près tous les mois des nouveautés. Donc il n'y a pas besoin de faire le déplacement dans ces salons ou sur ces salons pour voir ces nouveautés. Donc cette raison d'être n'existe plus. Et peu à peu, donc, ces salons doivent se réinventer, doivent trouver une nouvelle raison d'exister, et ça devient vraiment des plateformes de communication, et c'est aujourd'hui celui qui sera la meilleure plateforme de communication qui va probablement réussir.
Alors on essaye d'en mettre plein la vue, si je vous écoute bien, on essaye de séduire des gens comme vous en fait, des spécialistes, des journalistes.
Oui, et pas seulement, on essaye surtout aussi, bien sûr, mais pas seulement, on essaye de toucher une nouvelle clientèle, on essaye de toucher une clientèle plus jeune. Le SIHH, par exemple, c'est un bon exemple, était un salon professionnel fermé. Aujourd'hui, il s'ouvre un petit peu au public, il diffuse des images dans le monde entier, il est sur les réseaux sociaux. Bon, bref, ça paraît normal, mais pour les horlogers, c'est une mutation, en tout cas.
Alors, on le comprend bien, ces salons ont un avenir, mais ils doivent se réinventer, on vous a compris. Reste que cette année, le Salon international de la haute horlogerie, à ce qu'on raconte, a le vent en poupe et intervient dans un contexte plutôt favorable de reprise, c'est-à-dire que la confiance semble à nouveau de mise parmi les exposants. Alors, je vous propose d'écouter à ce sujet Fabienne Loupeau, la directrice du SIHH, une directrice qu'a rencontrée Marie-Lise Saillard.
2017 finit à peu près, les exportations horlogères devraient terminer à +3, +3,5. Donc c'est plutôt bon signe, même si c'est une reprise qui reste prudente. Donc on sent un certain optimisme, une certaine confiance, mais aussi beaucoup de prudence, parce que notre équilibre n'a jamais été aussi fragile qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe en termes de géopolitique au niveau mondial. Et donc forcément, l'industrie, surtout du luxe, est extrêmement sensible à cet environnement.
Michel Janot, une industrie sensible, mais quand même un peu plus optimiste. Est-ce que vous avez, vous aussi, perçu ce vent de reprise ?
Oui, je crois que l'ambiance est clairement plus sereine qu'il y a un an ou deux. Mais pour autant, rien n'est assuré. Et c'est vrai que si on peut se dire que cette année 2018 va probablement être un peu meilleure, ou en tout cas dans les mêmes eaux que 2017, les vraies questions, c'est pour les années à venir. Et comment est-ce que l'horlogerie va pouvoir aller chercher une nouvelle clientèle ? Je le répète, mais c'est essentiel. Et voilà, ça va évidemment dépendre de ça. Les emplois vont évidemment dépendre de ça.
Surtout qu'il faut quand même le dire, hein, ces 35 marques présentes, ça paraît pas beaucoup 35 marques, hein, si on compare avec Baselworld par exemple, mais ces 35 marques, et ça c'est nos confrères par exemple de l'Express et de l'Impartial qui nous le rappelaient lundi, représentent pas moins de 9000 emplois ou presque dans l'arc jurassien, c'est-à-dire qu'on est suspendu au destin de la haute horlogerie.
C'est vrai que la haute horlogerie a besoin de beaucoup plus de force et beaucoup plus d'artisans et beaucoup plus de fournisseurs, de sous-traitants que l'horlogerie industrielle de masse. Donc effectivement, les emplois, c'est sur la haute horlogerie essentiellement, pas seulement, mais sur la haute horlogerie essentiellement. En Suisse, de toute façon, c'est à peu près que ce segment qui existe, il faut être clair. Et donc, ces salons... Genève évidemment, mais Bâle aussi avec des grosses marques très puissantes, etc. De ces salons et des résultats de ces salons dépendent effectivement l'emploi dans nos régions.
Il y a quand même des entrées de commandes qui se signent à Genève ces jours-ci, et qui peuvent donner déjà un cap aux entreprises qui dépendent de ce secteur.
Oui, oui, il y a quelques commandes qui sont prises, heureusement, mais c'est vrai que ce qui est signé sur ces salons peut aussi ne plus être si, pas être honoré par la suite, etc. Donc, les chiffres qu'on nous donne en fin de salon sont toujours à prendre avec beaucoup de précautions, mais c'est vrai que le climat, on sent tout de suite auprès des patrons de marque, des communicants, on sent tout de suite si la situation est un peu sereine ou pas, et cette année, ça a l'air d'être... Après deux années quand même très difficiles, ça a l'air d'être un petit peu meilleur.
Un peu d'horlogerie pour les nuls, hein, puisque j'en fais partie. On est d'accord que la haute horlogerie, c'est quand même un segment particulier. C'est pas la montre de madame et monsieur tout le monde. C'est une montre qui va chercher à partir de quelques milliers de francs jusqu'à des sommets stratosphériques.
C'est exactement ça, oui. Et c'est vrai que la Suisse, on a l'impression qu'en Suisse, on produit tout type de montres. Alors, à l'exception de la Swatch, qui est vraiment très, très particulier, on peut presque dire qu'on fait presque que de la haute horlogerie en Suisse. Si on compare à la voiture, on pourrait dire qu'on produit au plus bas des Golf GTI, et autrement, c'est des Audi et des Bentley. Et c'est ça, l'horlogerie suisse, et les emplois dans nos régions dépendent de ce type de produit.
Et on nous prédisait une forme de raz-de-marée avec la montre connectée. On a l'impression, vu les chiffres qui repartent à la hausse, notamment pour ce segment, que c'est un peu une tempête dans un verre d'eau. Est-ce que la montre connectée, c'est terminé? C'est une histoire ancienne en termes de menaces?
En termes de menaces pour la haute horlogerie, ça a, à mon avis, jamais été une menace. Ça a été des prédictions d'experts qui ont expliqué qu'il y aurait probablement ce tsunami. Mais je crois vraiment que... C'était une fausse menace, parce que c'est comme si on avait dit telle marque va lancer un vélo futuriste et toute l'industrie automobile allemande va en pâtir. C'est deux éléments tellement distincts que c'était évident que ça allait pas toucher la haute horlogerie.
Néanmoins, quand on se promène dans le SIHH, on en entend parler, on en voit des modèles. Est-ce qu'on voit dans ces modèles de luxe l'arrivée du connecté, du smart?
Non, il y a pratiquement aucun... Une marque, Montblanc, qui fait de la montre connectée, mais elle l'expose même pas au SIHH. Et il y a une toute petite marque belge qui a présenté une montre très intéressante d'ailleurs, qui essaye de combiner le meilleur des deux mondes, mais c'est à peu près tout.
Michel Janot, merci d'être venu pour cet éclairage. Merci. On rappelle que le SIHH de Genève, le Salon international de la haute horlogerie, se tient jusqu'à vendredi avec la journée ouverte au public pour rêver, lécher des vitrines pas très bon marché. On vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Place publique. Gabriel Devecq.
L'hiver est bien de la partie, hein, ça ne vous a pas échappé, avec des flocons qui se sont à nouveau aventurés en plaine ce matin, même avec beaucoup de vent. Mais c'est surtout autour des crêtes de l'arc jurassien que l'or blanc est tombé en abondance ces dernières semaines, de quoi réjouir les différentes stations de ski du massif, car c'est la fin de plusieurs années de disette, et c'est l'occasion aussi d'en parler, de recevoir le président de la toute fraîche association des remontées mécaniques de l'arc jurassien, Jean-François Léchaud, bonsoir.
Bonsoir, Frédéric.
On va parler avec vous de cette saison qui s'annonce bien, mais aussi de l'avenir de la vingtaine de stations que vous représentez. On évoquera aussi l'évolution du marché des abonnements de ski avec l'avènement du fameux Magic Pass. Alors on commence par un pré-bilan, si j'ose dire. La météo, elle est certes capricieuse, mais malgré tout, on peut déjà parler d'une saison réussie dans l'arc jurassien.
Absolument.
On dit en général que lorsque les stations ouvrent durant les fêtes, entre Noël et Nouvel An, la saison est quasiment sauvée. Et en l'occurrence, on a été très heureux déjà au début du mois de décembre de faire aller quelques installations. Alors j'en parle parce que je suis aussi au comité des remontées mécaniques des téléskis des Prés d'Orvin, mais c'est le cas aussi au Bugnonnais et dans tout l'arc jurassien, Neuchâtel, le Jura bernois, l'arc vaudois aussi.
Il reste que malgré tout, hein, la réjouissance n'est pas passagère mais provisoire. On le sait, la tendance lourde est plutôt défavorable avec un manque de neige chronique.
Absolument. Donc on a dans l'arc jurassien, je dirais, des saisons qui sont de l'ordre de 60 à 80 jours au maximum par saison. Donc ouverture au mois de décembre, c'est tout ça de gagner sur l'ennemi, si j'ose dire. En revanche, on a des domaines skiables dans les Alpes qui sont ouverts 120, 130 jours et plus. Donc pour nous, on a bien sûr le souci de faire en sorte que chaque jour soit bénéfique au travers de différentes actions.
Donner le meilleur, évidemment, pour profiter de chaque jour si la neige tombe, mais surtout aussi se réunir pour lutter ensemble, d'autant plus nécessaire dans ces conditions. Vous travaillez main dans la main, toutes les stations, au sein d'une association qui a été créée assez dernièrement.
Absolument, oui. Donc un certain nombre de membres de conseils d'administration, de directeurs, de chefs techniques ont souhaité se retrouver. Tout d'abord de façon informelle et puis ensuite avec l'accompagnement de l'association fêtière des remontées mécaniques suisses, nous avons entamé un processus plus formel au terme duquel l'association a été créée. Donc elle est toute neuve, comme vous l'avez souligné, elle date du mois d'octobre de l'année passée et 16 stations de tous les cantons de l'arc jurassien, donc Vaud, Neuchâtel, Jura-Bernois, Jura, donc canton de Berne, Jura se sont associés de très grandes, je cite notamment Savanières-Bugnonnais, mais également la Dôle, jusqu'aux plus petites, Crédupuy, Tramelan, Dont-Vaux-Lyon, etc. Donc on est 16 aujourd'hui à avoir un destin commun et essayer de trouver des pistes de réflexion pour assurer l'avenir, pour se soutenir entre nous.
On pourrait croire, hein, quand on se promène dans l'arc jurassien, que ici ou là, le téléski isolé dans une pente, c'est une quantité négligeable, hein, dans tous les domaines skiables de Suisse. Mais si on vous met tous ensemble et puis qu'on fait le compte, on remarque en fait que le ski dans l'arc jurassien pèse quelque chose dans le ski, dans le nombre de skieurs en Suisse.
Absolument. Si on prend les statistiques au niveau suisse, donc toutes régions confondues, nous avons certes un faible rapport. On est à environ 1% tant de journées skieurs que de chiffre d'affaires, mais ce 1% compte parce que c'est toutes des familles qui viennent pour apprendre à skier avec des enfants bas âge, dès l'ordre de 3 ans, et qui ensuite vont aller à partir de 10 ans, 15 ans, vont partir dans les grandes stations. Ou alors le skieur à proximité de chez lui, à 20 minutes des pistes, vient se faire plaisir. Donc on a vraiment de 3 ans à 99 ans, si je peux dire ça ainsi, une offre qui est absolument, je dirais, nécessaire pour la région, mais aussi pour l'avenir du ski en Suisse.
Alors on peut dire que c'est un peu une antichambre des grands domaines skiables.
Absolument, j'aime bien votre terminologie. C'est également celle qui est utilisée par les remontées mécaniques dans leur réflexion générale, parce qu'on assiste depuis une quinzaine d'années à une tendance lourde, hein, de baisse, tant du niveau de nombre de skieurs que du chiffre d'affaires. Et donc, il faut se réunir, chercher des synergies. Je pense, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc le petit téléski isolé tout seul aura de la peine parce que les frais sont en constante augmentation. Donc, de se réunir, pas forcément de fusionner les sociétés, mais de se réunir pour réfléchir sur des pistes, par exemple en matière de marketing, en matière de gestion des coûts, en matière de gestion informatique, en matière d'achat de matériel, tout simplement, de bénéficier d'avantages que seule une petite station ne pourrait pas avoir.
Et au niveau du marketing, est-ce que c'est pas faire exister dans la tête des gens l'idée peut-être bénéfique d'un seul domaine skiable de l'arc jurassien avec des prestations communes, avec des avantages?
Alors, on est encore loin, je dirais, donc il n'y a pas d'idée dans ce sens-là. Donc, le but, ce n'est pas d'avoir une seule société pour tout l'arc jurassien. Donc, chaque société garde son identité, son ancrage régional, sa vision commerciale. Mais de chercher, alors, pour vous rejoindre dans cette idée, de chercher un dénominateur commun qui a été, je dirais, relativement facile à trouver. au mois d'octobre, tout le monde était d'accord que de réunir ses forces, tant vis-à-vis de l'extérieur, donc vis-à-vis des autres associations régionales, qu'elles soient fribourgeoises, vaudoises, fêtières, qu'également à l'interne, donc des synergies internes.
Il n'y a pas que la pression de l'enneigement hein, qui pèse sur vos épaules, il y a aussi une pression peut-être légitime, mais presque insidieuse, ce sont les contraintes, hein, les normes que vous devez appliquer parce que vous faites partie des remontées mécaniques suisses, en tant qu'association notamment. Et ça, parfois, vous me l'avez dit en préparant cette émission, c'est lourd à porter avec cette phrase que je me permets de citer. Je vous cite, c'est aussi cher aujourd'hui de faire descendre que de faire monter les skieurs. Expliquez-nous.
Oui, absolument, vous avez tout à fait raison. Donc, il n'y a pas de concession, il n'y a pas de négociation sur la sécurité des installations. Alors des installations à la montée évidemment, mais aussi dans la sécurité de la descente. Et depuis quelques années, on assiste à une augmentation des coûts. Alors il y a un enneigement artificiel qui fait peser naturellement les coûts sur la descente, mais au-delà, il y a la question de la sécurité, donc toute la signalétique, le fait de mettre des piquets, d'indiquer, de mettre des matelas de protection a également un coût. Et ça s'ajoute également tout ce qui est de la maintenance des pistes proprement dites, donc le damage. Aujourd'hui, notre public, le public de manière générale, recherche des pistes qui sont plates, qui sont peu bosselées, qui sont faciles d'accès. Et donc, on a finalement sous cette exigence-là des coûts mécaniques que nous n'avions pas, que les sociétés n'avaient pas il y a 20-30 ans. C'est pour ça effectivement que les coûts, de la descente aujourd'hui sont presque équivalents à ceux de la montée. Et je ne parle pas de la région de l'Arc jurassien, je parle vraiment au niveau suisse.
Dans l'Arc jurassien aussi, ce phénomène se fait ressentir. D'autant plus que la pression sur les prix, encore une autre pression, fait son apparition. On a vu cette offre qui a beaucoup fait parler d'elle l'année dernière et qui se concrétise cette année dans les fêtes. C'est ce Magic Pass auquel participe notamment la station des Bugnonnais-Savanières. Magic Pass qui donc offre des prix cassés et un accès à plusieurs stations transfrontalières, hein, peu importe le canton. Et ça a l'air aussi d'être une tendance lourde. On casse les prix pour essayer de regagner le cœur des skieurs. Il n'y a plus le choix.
Oui, alors je dirais que la démarche du Magic Pass, donc j'en ai discuté avec son initiateur ou l'initiateur qui est enfin la personne qui a été aussi au sein du groupe de réflexion. Le but c'est d'offrir quelque chose aux skieurs et de réfléchir à la montagne différemment. Et je pense que cette idée qui s'est concrétisée aura un bel avenir. Et on doit réfléchir le ski différemment, et ça s'applique aussi à l'arc jurassien. Donc les petites stations se mettent au système informatique, donc Ski Data notamment, pour permettre une descente à ski et un temps de ski adapté aux besoins, deux heures, trois heures, une demi-journée, en fonction de la fatigue. Permet aussi, avec ces systèmes informatiques, de mieux référencer les périodes d'affluence, les périodes de creux, donc d'adapter les prix. On a un prix fixe, mais à côté de ce prix fixe, il y a toute une multitude de possibilités, finalement, de rechercher l'offre la plus adéquate au bon moment. Et donc ça, l'informatique, bien sûr, nous aide grandement. Et le Magic Pass, alors aujourd'hui, Bugnonnais-Savanières, Tramelan y sont. La réflexion se fait dans d'autres petites stations et on pourrait assister encore à un développement dans ces prochaines années.
Un développement pas toujours simple parce qu'il faut s'équiper de cette fameuse machine que les skieurs connaissent bien, cette machine Ski Data, et chaque téléski n'a peut-être pas les moyens d'investir, surtout qu'on l'a dit et redit, aucun hiver n'est garanti.
Absolument. Donc la recherche financière, donc chaque société est indépendante financièrement, doit réfléchir son budget à 2-3 ans, toujours en gardant un certain matelas de sécurité. Maintenant, il y a des options, par exemple du leasing, des possibilités de financement qui permettent d'échelonner le paiement, parce qu'effectivement, pour une petite station, un achat de cette nature pèse sur une station. Donc l'idée, c'est d'y aller pas à pas, petit à petit, comme on l'a toujours fait. Je pense qu'il y a 16 stations aujourd'hui dans l'association. J'espère que d'autres nous rejoindront. dans cette initiative. Et peut-être que là aussi, il y a des recherches de financement à faire. Comme vous le savez, aujourd'hui, les remontées mécaniques sous forme de sociétés anonymes ne sont pas subventionnées, ne touchent pas de subventions, ne sont pas non plus soutenues par des organismes type loterie, jeux de hasard. Donc là aussi, il y a une recherche, peut-être une marge de manœuvre encore à avoir ou des idées à creuser.
On termine avec peut-être la prochaine étape, hein, cette association qui a vu le jour en automne. Quelle sera la prochaine échéance, justement, pour vous faire avancer dans votre cause ?
Alors, on a finalement un comité de 7 personnes qui se composent des différentes stations participantes. Nous nous retrouverons à un rythme de 3 mois avec une assemblée générale en fin d'année. Je dirais que nous allons déjà tirer un premier bilan au mois de mars de cette saison écoulée, un premier bilan sur le Magic Pass, de voir également ce qui sera faisable durant cet été. Et je pense que dans un avenir assez court, de trouver des objectifs qui soient communs.
Eh bien, on, bien sûr qu'on fera le point avec vous, hein, par rapport à ces évolutions et par rapport aussi au bilan de cette saison. On l'a bien compris, qui a bien démarré. Jean-François Leschaud, merci de nous avoir rejoints dans Place Publique.
Mais c'est moi qui vous remercie de l'invitation et puis je vous souhaite encore une bonne continuation d'audience.
Merci vous, beaucoup. Bon hiver.
Merci.
Place Publique.
Et il est temps d'accueillir notre prochain invité, Jacques Mathé. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez la Société Neuchâteloise de Presse et vous vous apprêtez à lancer la nouvelle formule papier des quotidiens neuchâtelois de l'Express et de l'Impartial dès mardi prochain, 23 janvier. Notez dans votre agenda, ces deux journaux seront réunis en un seul titre. Arc Info. Alors Arc Info, c'est un nom bien sûr qui dit beaucoup de choses au Neuchâtelois, c'est le nom de votre plateforme internet lancée il y a 10 ans. Mais qu'on soit concret, ça veut dire que tous vos lecteurs, à partir de mardi prochain, des montagnes, du littoral, des vallées, même d'ailleurs, tiendront le même journal entre les mains. C'est fini l'Impartial et l'Express sous la forme qu'on leur connaît.
Sous la forme qu'on leur connaît, effectivement, c'est fini comme vous le dites, mais c'est fini pour la bonne cause, puisqu'on part vers une nouvelle aventure qui va réunir le meilleur des deux quotidiens actuels pour une, comme vous le dites, une nouvelle formule, une nouvelle ambition, un nouveau défi et un grand média pour le canton de Neuchâtel.
Alors c'est une étape, hein, c'est une étape historique, on va en parler, une étape, la fin d'un processus, vous nous le rappelez dans un communiqué paru aujourd'hui, d'un processus de rapprochement entamé depuis plus de 20 ans, c'est quand même pas rien.
C'est effectivement, on n'est pas très rapide, vous avez raison, mais c'est la fusion des rédactions.
C'est pas ce que je voulais dire.
La fusion des rédactions de l'Express et l'Impartial, ça date de 1996. On le rappelle effectivement pour dire que la maturation a été longue, mais le processus a été très progressif. 96, en 1999, on a réuni les titres dans une société éditrice commune, la Société Neuchâteloise de Presse, et vous l'avez rappelé en 2008, en créant Arc Info, qui a porter toutes les initiatives digitales de nos médias, c'était une autre étape de ce rapprochement. Et maintenant, le temps est venu de passer à l'étape suivante, celle qui voit effectivement les deux titres se réunir.
Alors, Arc Info, votre site web qui donne son nom au support papier désormais, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? C'est que le support principal devient le support digital ?
Alors, on peut comprendre partiellement ça. On peut comprendre en tout cas le fait que notre avenir est sur le digital et qu'aujourd'hui, les nouveaux abonnés qu'on conquiert sont avant tout des abonnés digitaux. Mais si je dis ça uniquement sans suite, c'est un peu réducteur parce que le papier est une composante essentielle de notre business model, de notre manière d'envisager l'information. Donc, le papier est au cœur de la démarche dans une logique de complémentarité avec le digital. Mais dans le travail d'une rédaction aujourd'hui, c'est vrai qu'on pense le digital d'abord parce que nos abonnés, c'est bien à eux qu'on s'adresse, quel que soit le support, nos abonnés nous attendent sur le digital en premier, c'est ça qui a changé dans la manière de consommer les informations. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que le digital a pris une part dessus. Maintenant, ce n'est pas l'unique raison du choix d'Arc Info comme titre pour notre journal. C'est évident que dès l'instant où on voulait passer à l'étape suivant l'Express et l'Impartial, la réflexion autour du nom était une problématique où le fait de trouver un nom fédérateur n'allait pas de soi et on avait la chance de disposer de ce nom-là puisque justement depuis 2008 on a créé cette plateforme qui a progressivement pris une place considérable puisqu'aujourd'hui elle a une audience globale qui dans les faits dépasse celle du papier donc on avait la chance d'avoir ce titre-là qui était là pour porter cette initiative commune.
Ce changement de titre porte un enjeu. C'est peut-être un détail pour beaucoup de monde, mais c'est quand même intéressant d'en parler. C'est l'héritage historique, hein, on le sait. La Feuille David de Neuchâtel, c'est à ce jour le plus vieux journal en langue française imprimé. Ça date de 1738. Il y a toujours cette mention d'ailleurs sous l'Express. Est-ce qu'en choisissant Arc Info, vous tournez cette page historique, vous coupez le cordon ombilical pour vous projeter vers l'avenir, ou est-ce que vous revendiquez toujours cet héritage et est-ce qu'il sera visible de manière très concrète sur la nouvelle maquette, la nouvelle formule?
Alors, on s'inscrit dans la continuité, donc l'héritage, on le revendique. L'Express d'aujourd'hui s'appelait La Feuille David Neuchâtel précédemment, donc changement de nom, il y a déjà eu, changement d'identité également. Pour l'Impartial, par contre, alors on avait une continuité de nom depuis la création en 1881. Maintenant, on revendique cette continuité et elle va s'exprimer sur l'édition papier avec le maintien aux côtés du titre Arc Info d'une mention explicite liée à l'Express et l'Impartial, où les deux titres vont être rappelés d'une manière discrète, dira-t-on, mais ils figureront toujours en une des quotidiens.
Vous évoquez dans votre communiqué, là encore, la création d'un grand média régional qui correspond à la réalité des Neuchâtelois, dont vous dites qu'ils sont toujours plus mobiles, toujours plus connectés, mais on a envie de vous dire aussi toujours plus divisés. Est-ce que votre ambition, quelque part, c'est de les rassembler?
Alors, oui, l'ambition est de les rassembler, mais cette division, on peut l'interpréter de différentes manières. Alors, on peut parler de division, on peut parler simplement d'une sensibilité différente par rapport à des sujets d'importance sur lesquels on a des opinions qui sont différentes. Maintenant, ce dont on est convaincu, c'est que ces sensibilités, elles vont s'exprimer beaucoup mieux au travers d'un média écrit qui va s'adresser de la même manière à l'entier des lecteurs ou qui soit établi sur le canton de Neuchâtel, et que ça va contribuer à apaiser le débat cantonal. Donc de ce point de vue-là, on a cette vraie ambition d'incarner le canton de Neuchâtel. Et oui, le Neuchâtelois d'aujourd'hui sont mobiles, qu'on parle de vie professionnelle, de loisirs, de consommation, de formation. Je crois que c'est, on l'a voté sur le plan des institutions aussi, le canton de Neuchâtel est un tout largement urbain, mais pas que, mais étant tout, et on va l'envisager de cette manière-là, et je le répète, dans le respect des sensibilités et des différences, nuances que peut composer cette région.
Qu'est-ce que vous dites aux lecteurs et même à vos journalistes des montagnes qui peuvent craindre peut-être une perte d'influence du haut du canton, une perte d'ancrage local? Est-ce que vous allez par exemple maintenir, voire renforcer vos effectifs à La Chaux-de-Fonds?
Alors, je leur dirais tout d'abord qu'ils n'ont aucune raison de s'inquiéter plus que leurs collègues du littoral, qui eux-mêmes n'ont pas de raison de s'inquiéter, puisqu'en fin de compte, on va s'inscrire dans une continuité, on change pas les lignes de force de l'organisation de la rédaction, le nombre de journalistes sur le terrain sera identique à ce qu'on connaît aujourd'hui, donc il n'y a pas de perte de substance au niveau des forces vives, et je dirais la représentativité des différentes régions reste parfaitement proportionnel au territoire qu'on couvre. Maintenant, c'est une, comme je le disais précédemment, cette expression des sensibilités, ça c'est au niveau, évidemment, au niveau de la rédaction en chef, qu'il faut être attentif à ces éléments-là.
Mais dans le choix des sujets, Jacques Mathé, que vous allez traiter tous les jours, on imagine qu'il y aura quand même, grâce à ce nouveau journal, un nouveau regard, une nouvelle manière de raconter l'histoire des Neuchâtelois au jour le jour, qui va peut-être faire porter plus attention aux phénomènes qui concernent l'ensemble qu'aux événements locaux. Est-ce qu'il y a malgré tout pas, dans la ligne éditoriale, quelque chose qui va changer?
Oui, on va devoir faire les deux choses en même temps. C'est effectivement développer des sujets qui sont pertinents, concernants pour l'entier des lecteurs. Donc l'entier des lecteurs, Neuchâtelois notamment, mais pas que, parce qu'on a des abonnés qui sont effectivement également hors canton, et des sujets qui sont concernants pour l'entier des lecteurs, donc ça veut dire être meilleur sur les grands enjeux, sur le décodage, le décryptage de problématiques qui sont des problématiques globales, et ça, on va devoir le faire sans perdre en substance sur le local, en restant très profondément ancré dans le territoire, comme on peut déjà l'être maintenant.
Vous n'oubliez pas vos lecteurs en dehors des frontières cantonales neuchâteloises, parce qu'il y en a, on pense à ces régions frontières, hein, les Franches-Montagnes, le Vallon de Saint-Imier, mais même au-delà. Est-ce que vous avez des ambitions à l'image des médias audiovisuels dans la région qui sont représentés ou qui sont dans des entités présentes dans tout l'arc jurassien? Est-ce que vous avez des ambitions de vous étendre, de gagner un peu des lecteurs au-delà de votre zone actuelle?
Alors, je dirais, on n'a pas d'ambition hégémonique sur le sujet. C'est bien volontiers qu'on développe ce lectorat-là aussi. Aujourd'hui, on a des collaborations intelligentes avec nos titres partenaires, que sont le Journal du Jura notamment, mais également le Quotidien jurassien, puisqu'avec les différents titres de la presse romande, on a mis en place des collaborations, alors que je qualifie d'intelligentes, parce qu'elles nous permettent de faire mieux certaines choses ensemble. Maintenant, il se trouve qu'on a effectivement certaines zones dont vous parlez, les Franches-Montagnes, Vallon-de-Saint-Imier, la Neuville, dans lesquelles il peut y avoir une certaine concurrence. Je pense dans les faits que ce qui joue dans l'attachement d'un lecteur à son journal, c'est avant tout de savoir de quel côté il est orienté par rapport à sa vie. Si un lecteur des Franches-Montagnes est abonné aujourd'hui à l'Impartial et demain à Arc Info, c'est parce que vraisemblablement sa vie professionnelle, elle est plutôt tournée du côté de la Chaux-de-Fonds.
Revenons à cette nouvelle formule et à ce qu'elle implique comme enjeu. Vous l'avez dit, c'est une opération blanche, si on peut dire, au niveau des emplois. Il n'y aura pas de licenciement, il n'y aura pas moins de couverture locale. L'ancrage restera le même. Néanmoins, quand on voit le paysage de la presse en Suisse, on voit comme ce paysage se resserre, on voit les difficultés que vous subissez aussi. Est-ce que ce n'est pas aussi, Arc Info, comme titre unique, un choix de la contrainte ?
Alors non. Et ça, je peux l'affirmer, on est vraiment dans un projet, on est dans un projet d'entreprise, on est dans un projet éditorial, on est dans un projet pour le canton, c'est pas un projet défensif. Oui, tout comme nos confrères de la presse, on souffre d'une situation, d'un contexte économique qui est complexe pour notre branche, mais ce projet-là, c'est un projet entrepreneurial, c'est un projet pour nos lecteurs.
Avec quand même des départs que vous n'avez pas pu renouveler, avec un personnel qui, si on regarde justement cette histoire de votre titre, n'est pas allé en augmentant, mais après c'est pas, ça veut peut-être rien dire ou ça ne veut rien dire au niveau de la qualité. Mais en moins, les difficultés, vous les traversez aussi.
Alors les difficultés, on les traverse, c'est le projet Arc Info, on l'a construit avec les moyens dont on dispose, dont on sait pouvoir disposer et compter à l'avenir. Et ça, c'est effectivement ce qui était important. Maintenant, voilà, les difficultés, on ne les nie pas. Mais on est bien dans du logique différentes. Et ce projet-là, c'est un projet qui n'est pas un projet en réaction à des difficultés. Par contre, c'est un projet qui doit nous permettre d'ancrer notre média écrit de manière pérenne dans le territoire neuchâtelois.
Il n'y a pas que la presse écrite qui traverse des difficultés. Vous le savez bien, Nobilag, cette initiative votée le 4 mars, risque de mettre en péril les médias audiovisuels dans la région notamment. On pense évidemment à RTN, RJB, RFJ, mais aussi Canal Alpha. On vous a lu aussi dans les colonnes de vos journaux prenez le nom, un nom, mais...
Un nom, mais effectivement, voilà, on considère très clairement que l'initiative est excessive et outrancière, et c'est pas qu'en cassant tout qu'on peut trouver des solutions. Par contre, notre position est claire également, c'est qu'aujourd'hui, la réflexion sur le service public doit être orientée sur les contenus, sur des contenus qui effectivement sont de service public et qui méritent un soutien public sous une forme qui reste à déterminer, mais ces contenus ne sont pas que des contenus produits par des télévisions ou des radios, et c'est évident qu'on considère qu'au niveau de la presse écrite, on a une part de nos contenus qui entre aussi dans le champ de ce qui peut entrer dans la dénomination de service public.
Merci beaucoup Jacques Mathé d'être venu nous dire quelques mots de cette nouvelle formule donc des quotidiens neuchâtelois qui sont regroupés sous la bannière d'Arc Info à partir de mardi prochain. On se réjouit bien sûr beaucoup de découvrir cette nouvelle formule et qu'on citera bien sûr quasi quotidiennement dans notre revue de presse auprès de nos auditeurs. Merci d'être venu dans Place Publique.
Merci de l'invitation.
Et plein succès pour la suite évidemment.
Merci beaucoup.
Place Publique.